Ok. J'ai l'impression d'être une hôtesse de l'air. Alors, bonjour à tous. Merci, Monsieur Generetti, pour cette présentation. Donc, oui, effectivement, vous m'aviez proposé l'automne dernier de refaire la conférence que j'avais faite à l'occasion du congrès des sociétés savantes à Aix-les-Bains. Donc, j'espère que vous n'étiez pas là, parce que sinon, ça va faire un peu la même chose, quoi. Mais du coup, j'ai proposé à Christian de m'accompagner, parce qu'il connaît bien la Maurienne. Donc, sachant que moi, j'ai prévu donc, de vous parler aujourd'hui de l'eau et de son lien avec les mines et la métallurgie. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui vais commencer, parce que donc, chronologiquement, on est dans une période plus ancienne. Et puis, donc, Christian prendra la parole ensuite. Donc, on va commencer. Hop. Est-ce que vous voyez bien ? Alors, je commence ma conférence sur une photo de l'entrée de la Grange Batelière à l'abbaye d'Hautecombe. Je ne sais pas si certains ont eu l'occasion d'y aller donc, au cours de ces trois dernières années. Il y avait une exposition qui s'appelait Mines de montagne, donc, qui a été organisée par le département de la Savoie, donc j'ai participé à cette exposition. Et donc l'idée, c'était de présenter au grand public l'histoire minière de la Savoie. Alors, je pense que vous la connaissez en tant que membre de cette société savante, mais en fait, c'est une histoire qui est assez méconnue, voire même très méconnue du grand public. Et donc, l'idée, c'était d'expliquer en fait, aux gens l'importance de cette activité pour la Savoie. Donc, activité donc, qui commence il y a très longtemps. Alors, on a des mentions dans les textes. On a un spécialiste de textes anciens dans la salle, je ne le vois plus, mais il est là-bas. Donc voilà, des mentions de mines très anciennes dans les textes. Et puis récemment, le département a mené de son côté des investigations archéologiques qui ont prouvé qu'on a des traces assez anciennes de métallurgie, notamment. Je pense à la forêt du Penet. Donc c'est un site qui a été découvert par Robert Durand. Et donc en faisant des datations sur place, on s'est rendu compte donc, que les activités métallurgiques du Penet dataient du IIIe siècle. Donc ça vous donne un peu une idée de l'ancienneté de cette activité en Savoie. Et donc c'est une histoire donc, qui commence très tôt et qui va se terminer assez récemment, puisque donc, comme vous le savez tous, j'imagine, les dernières mines ferment en Savoie dans les années 1970 à La Plagne. Voilà. Alors pourquoi une aussi longue tradition minière et métallurgique en Savoie ? Tout simplement puisque le territoire recèle finalement de tous les ingrédients nécessaires donc, à cette activité. Donc, pour vous les présenter rapidement, donc, première chose, il y a des mines, ça paraît évident. Donc, vous avez à l'écran donc, une carte qui a été réalisée grâce aux recherches donc, de Robert Durand, qui est encore une fois dans la salle, qui fait l'honneur de venir à cette conférence. Merci Robert. Donc c'est toutes les mines en fait que Robert a recensées sur le territoire de la Savoie. Donc il y a à peu près 1000 points. La couleur des points correspond au type de minerai ou de matière première qui était extrait. Alors j'ai pas mis la légende à côté de la diapo, mais vous avez par exemple en noir vous avez les mines de charbon, en orange c'est plutôt les mines de cuivre, le fer en gris, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y en a un peu partout. Et surtout qu'il y en a énormément. Deuxième ingrédient, eh ben c'est le bois. En fait, les montagnes en fait, de Savoie possèdent d'immenses forêts donc, qui sont capables de fournir le carburant de l'activité métallurgique. Donc ce carburant, c'est le charbon. Donc on transforme tout ce bois en charbon et ça permet d'alimenter les fonderies. La main-d'œuvre, qui est également un des ingrédients indispensables à toute activité industrielle. Et donc, dernier ingrédient, c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'eau. Donc, l'eau, c'est encore une fois une force motrice qui est indispensable à toute activité industrielle. Alors, indispensable, oui, mais dans le cas de l'activité minière et métallurgique, on va le voir que ce n'est pas toujours une alliée et qu'elle peut parfois poser problème. Alors, je vous propose d'observer ce document qui est une page de graduel, donc c'est un livre de chant. C'est un document qui est conservé dans les Vosges, à la bibliothèque de Saint-Dié. Et donc, c'est un document, donc, au centre, vous avez le chant religieux, et tout autour, vous avez des scénettes qui représentent en fait toutes les étapes d'une mine de plomb, d'argent, ouais, de plomb argentifère. Et donc, toutes les étapes qui vont de l'extraction du minerai jusqu'à sa fonte en métal d'argent. Alors, si on zoome un peu sur les vignettes, je vous les ai rangées, on va dire, dans l'ordre. Donc, vous avez en haut toutes les phases qui vont se dérouler plutôt dans la mine, et en dessous, les phases qui se déroulent à l'extérieur de la mine. Et alors, ce qu'on voit bien sur le document précédent, c'est que toutes ces scénettes, en fait, sont reliées par un cours d'eau. Donc, c'est toujours le même cours d'eau. Et si on regarde de plus près, donc on le voit aussi, sauf qu'on s'aperçoit de quelque chose. Donc là, on voit bien le cours d'eau qui rentre dans la mine avec le petit personnage que vous avez ici avec sa benne vide. Et donc, voilà, il y a plusieurs étapes d'extraction, etc. Et ici, on voit nettement que donc, les mineurs qui sont au fond de la mine cherchent à se débarrasser de cette eau grâce à cette machine de pompage là, qu'ils sont en train d'activer pour la faire sortir de la mine. Donc là, on voit l'eau qui sort de la mine. Donc on voit qu'ils cherchent à s'en débarrasser, c'est très clair. Donc l'eau sort de la mine. Et à partir de là, donc, l'eau devient vraiment l'élément un élément, pour le coup, qui n'est plus indésirable, qui est indispensable pour toutes les étapes qui vont suivre. Donc là, vous avez l'étape plutôt du concassage, du lavage. Là, vous avez aussi une autre étape de concassage, mais avec une machine un peu bizarre dont je reparlerai tout à l'heure. À nouveau, du triage. Et donc là, vous avez même le cours d'eau qui va entraîner une roue qui sert à réparer les outils des mineurs. Donc ce que j'aime bien dans ce document, c'est qu'on voit qu'à la fois, l'eau, elle est importante pour une partie de l'activité, mais en même temps, on peut le voir, dans la première phase de l'activité minière, c'est plutôt un problème. Donc cet exemple, enfin ce document n'est pas du tout savoyard, mais c'est quelque chose qu'on peut transposer chez nous. Alors, qui n'est pas propre à toutes les mines, parce que toutes les mines n'ont pas de problème d'inondation, notamment. Mais il y a quand même quelques exemples dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui existent. Alors, je vous propose de m'accompagner sous la surface, et donc, à travers trois exemples savoyards, de voir comment l'eau peut être un problème donc dans la première phase, donc qui est la phase d'extraction, et donc, quelles sont les solutions en fait, qui vont être envisagées pour s'en débarrasser? Alors, un exemple très célèbre, l'exemple de la mine de Pézet, donc c'est en Tarentaise, c'est une mine de plomb argentifère. Elle commence à fonctionner au XVIIIe siècle. Et on a un témoignage en 1740, oui, 1740 d'un ouvrier donc, italien qui raconte qu'il y a déjà un puits au fond de la mine, qui s'est formée, dont on ne voit même pas la profondeur et qui est remplie d'eau. Quelques années plus tard, c'est une galerie qui va donc une source qui va apparaître dans la galerie inférieure de la mine. Donc la compagnie qui exploite la mine va tenter des solutions, va essayer des solutions pour se débarrasser de cette eau qui devient un problème grandissant. Donc en creusant une galerie d'exor. Mais donc c'est une galerie qui est assez importante, hein, je crois qu'elle fait 600 mètres de long, si je ne dis pas de bêtises. Mais donc ça ne va pas fonctionner, en fait, le problème d'inondation va persister. Et on arrive en 1792, il va se produire un drame, en fait, suite à de fortes pluies. Un torrent va se former dans la mine et emporter, en fait, tous les travaux, détruire les galeries. Et donc il y avait 4 mineurs, a priori, qui se trouvaient au fond de la mine. Qui vont être noyés à cette occasion. Donc cet événement va stopper complètement l'activité de la mine pendant une dizaine d'années. Donc au début du 19e siècle, le site de Pézet devient une école nationale des mines. Donc il est réouvert donc, à l'initiative donc, du personnage que vous avez à l'écran, qui s'appelle Johann Schreber, et qui va essayer de remettre la mine en activité, et donc de déblayer les travaux qui ont été noyés. Vous avez un petit texte, d'ailleurs, là, que j'ai mis, qui raconte donc le déblaiement, et qui raconte notamment qu'on aurait retrouvé les corps des personnes qui étaient noyées. Donc, malgré tous ces efforts, donc le problème d'eau persiste à Pézet. Alors à cette époque-là, vous avez des élèves ingénieurs qui viennent sur place pour apprendre le métier. Donc ils ont un cours qui s'appelle l'art d'épuiser les eaux. Donc autant vous dire qu'à Pézet, ils peuvent mettre en pratique la théorie. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer, voilà, on a des plans donc, qui sont conservés à l'Académie de la Val d'Isère, où l'on peut voir en fait les travaux des élèves. Donc là, vous avez des plans de pompe ou de machines de pompage. Donc, qui était destiné à essayer de trouver des solutions pour débarrasser la mine de ses eaux. Donc, à Pézet, le problème va se présenter de manière récurrente. On tente, dans les années 1830, d'installer une machine de pompage, mais elle est vite noyée. Et donc, finalement, la mine va définitivement fermer dans les années 1860. Alors, on a un autre bel exemple de mine confrontée donc, à ces problèmes d'inondation un peu permanentes. Donc là, on est dans le Val-Jolon. On est donc dans la concession de la richesse. Voilà, j'ai entendu. Donc ce sont des mines de plomb argentifère qui, elles aussi, donc, sont confrontées à ces problèmes d'inondation permanente. Donc on va tenter de mettre en place en fait des solutions, on va dire, classiques pour se débarrasser de l'eau, type galerie d'exor, etc. Et ça ne fonctionne pas bien. Donc au milieu du XVIIIe siècle, donc, la compagnie exploitante va tenter quelque chose de nouveau. Donc c'est une machine de pompage dont vous avez le plan qui s'affiche à l'écran. Donc cette machine de pompage, elle prend la forme donc, d'une grande roue qui fait 10 mètres de diamètre.
Est-ce qu'on voit ma souris ?
Et donc qui entraîne des tirants qui sont reliés les uns aux autres, jusqu'à des pompes donc, qui se trouvent dans les galeries de mine. Et donc je crois que la distance entre la roue et les galeries est à peu près de 400 mètres, donc ça vous donne une idée un peu de l'ampleur de cette machine. Et ce qui est très paradoxal, c'est que c'est une machine hydraulique, c'est-à-dire que la roue est entraînée par de l'eau, qui sert en fait à évacuer de l'eau.
Et... Vous voulez le pointeur ?
Ah, bah, je crois que la souris, on la voit, donc ça va. Merci. Ce qui fait que, je crois que c'est dans l'hiver 1756, si je ne dis pas de bêtises, en fait, les mines sont inondées, puisque les ruisseaux ont gelé, et donc la roue ne tourne plus. Donc voilà, cet exemple est assez paradoxal. Petite, on va dire, flash info. L'année dernière, donc il y a eu des prospections dans le Val-Jolon, donc par des archéologues spéciaux, enfin des archéologues miniers, qui pensent avoir découvert l'emplacement de la roue hydraulique. Donc voilà, on en saura plus, je pense, dans les années à venir, donc sur le fonctionnement de cette machine. Dernier exemple, un peu plus local. Donc c'est la mine des Sarrasins à Modane. Donc c'est une mine qui est située à près de 3000 mètres d'altitude. C'est une des plus hautes d'Europe. Mais donc cette situation dominante ne l'empêche pas du tout d'être confrontée, elle aussi, à des problèmes d'inondation et des problèmes d'infiltration. Donc qui vont gêner en fait l'exploitation. Mais au XVIIIe siècle, on va avoir un personnage célèbre qui va s'intéresser au cas de cette mine, qui va la visiter en fait, et qui va essayer de proposer des solutions. C'est Jacques-Alexis Vichard de Saint-Réal, donc, vous connaissez, je pense, donc, qui est, on va dire, un haut fonctionnaire savoyard, mais qui était aussi quelqu'un un peu passionné de minéralogie, de géologie. Donc voilà, qui va mener des expériences pour essayer de trouver une solution pour débarrasser la mine de son problème d'inondation permanente. Et donc lui, il va proposer, en fait, il va réfléchir et proposer l'utilisation d'un siphon. Donc il va présenter son projet à l'Académie royale des sciences de Turin. Donc il va rencontrer un grand succès. Donc voilà, il va faire des calculs. Enfin, on peut lire qu'il fait beaucoup de calculs pour essayer de trouver le diamètre idéal du siphon, pour éviter l'écrasement, vous savez, en cas de perte de pression, etc. Donc voilà. Par contre, je ne peux pas du tout vous dire si cette proposition est restée théorique ou si elle a été mise en pratique, puisque aujourd'hui, il y a une bonne partie de la mine qui est noyée. Voilà. Donc peut-être que le siphon a été installé ou qu'il n'a pas fonctionné. On ne peut pas vraiment savoir. Robert, je pense que t'as pas de... tu l'as pas vu, le siphon de...
Non, je pense qu'une petite partie de la muqueuse.
Ah oui, ouais, sur le plan, on voit quand même qu'il y a quand même... c'est ton plan, d'ailleurs, je pense. On voit sur les pointillés qu'il y a une partie qui est sous les eaux, les travaux anciens, notamment, je crois.
Je pense qu'il y a eu un éboulement qui a stoppé l'écoulement de l'eau et
ça a
remonté derrière.
Ah, d'accord, ok.
Qu'est-ce qu'on y a sur la pierre ?
Le plomb argentifère aussi, beaucoup, ouais, au sarrasin. Donc maintenant qu'on a vu que dans la première phase de l'activité minière, l'eau était un problème, je vous propose de remonter à la surface pour voir que dans la suite des opérations, elle va plutôt être un atout. Autant elle était un ennemi sous la surface, autant elle devient un allié donc à la surface. Alors, comme dans le graduel de Saint-Dié, on a des exemples en Savoie qui montrent que ce lien est quand même assez ambivalent, puisque l'eau dont on se débarrasse à l'intérieur, on l'utilise à l'extérieur. Alors c'est le cas à Pézet, donc la fonderie se trouve au pied des mines, donc on va utiliser l'eau qu'on sort de la mine pour entraîner des machines qui se trouvent à l'extérieur. C'est le cas aussi à Mako, c'est un exemple assez original parce que les eaux qui sortent de la mine rejoignent un canal de flottage qui permet de transporter le minerai donc jusqu'à la fonderie. Donc c'est un canal quand même qui fait 1700 mètres de long, donc c'est assez important. Mais donc l'eau donc va devenir très importante à partir des premières étapes de la transformation donc du minerai en métal. Donc je vais vous parler un peu de ces étapes. Alors la première étape, je mets de côté l'étape, on va dire, du triage et du lavage, où évidemment on a besoin d'eau. Mais la première étape pour laquelle on a besoin de l'eau en tant que force motrice, c'est l'étape du concassage, donc qui arrive en tout premier dès que le minerai est sorti de la mine. Donc c'est une étape qu'on peut faire manuellement, mais qui est assez fastidieuse, et donc qui peut être grandement facilitée par l'utilisation de l'eau comme force motrice. Alors dans ce cas-là, on utilise une machine qu'on appelle le bocard. C'est la machine que vous voyez à l'écran, donc, et qui prend la forme d'une roue hydraulique qui entraîne un arbre à cames qui lui-même est relié à des pylons, si vous voulez. Donc c'est des poteaux en fait qui sont souvent ferrés et qui permettent de concasser le minerai de manière un peu plus facile. Alors, des bocards, il y en avait beaucoup en Savoie, donc à proximité de toutes les mines, quasiment. Le problème, c'est que, comme on le voit sur cette image, c'est des édifices qui sont souvent assez modestes, en bois, et dont on ne retrouve plus aucune trace aujourd'hui. On a visité plusieurs sites de bocards qui étaient mentionnés dans les archives, et donc sur place, il n'y a plus rien. Toutefois, dans la toponymie, on retrouve quand même beaucoup le bocard, c'est un lieu-dit qui revient de manière assez régulière, donc ça montre qu'il y avait des bocards à ces emplacements-là. Alors, seconde étape de la métallurgie, donc pour laquelle l'eau va être un élément indispensable, c'est l'étape de la fonte du minerai elle-même. Donc à l'origine, la fonte du minerai, elle était réalisée dans ce qu'on appelle des bas-fourneaux. Donc on va dire que ça prend la forme de petites tourelles dans lesquelles on va mettre le minerai pour le faire chauffer. Et donc ces bas-fourneaux étaient alimentés par des soufflets manuels. Donc on avait une soufflerie qui n'était pas toujours régulière, pas suffisamment puissante, et donc qui ne permettait pas d'atteindre le point de fusion des minerais. Donc on n'obtenait pas un métal de bonne qualité. À partir du moment où on va coupler des roues hydrauliques à des soufflets, on va obtenir donc un souffle beaucoup plus régulier et beaucoup plus puissant, ce qui va permettre de monter en température dans les fourneaux. Et donc ça va contribuer donc à passer de la technique du bas fourneau à celle du haut fourneau. Donc à l'écran, vous avez un dessin de haut fourneau, comme ça vous voyez bien comment ça fonctionne. Alors en Savoie, on n'utilise pas, pour la technique de soufflerie, ce n'est pas celle du soufflet. On utilise beaucoup une autre technique qu'on trouve souvent dans les régions de montagne, dans les Pyrénées, dans les Alpes, etc. C'est un système qu'on appelle la trompe hydraulique ou la trompe dauphinoise. Alors c'est ce qu'on le voit très très bien sur ce dessin. En fait, on va envoyer de l'eau dans un canal qui rejoint ce bassin, duquel part des tuyaux, si vous voulez, qui sont connectés à des tonneaux. Voilà, on le voit aussi bien sur cette coupe. C'est exactement la même chose. Et donc, en tombant, l'eau va comprimer de l'air. C'est la technique de l'air comprimé, si vous voulez. Et donc, l'air qu'on obtient, il est directement envoyé dans le foyer du haut fourneau, donc par cette tuyère que vous voyez sur le plan. Donc voilà, c'est la technique qu'on utilise beaucoup en Savoie. On le voit là, par exemple, sur... Donc dans les archives, elles sont toujours mentionnées, ces trompes hydrauliques. Là, on le voit très bien aussi sur... donc c'est un plan des fabriques de cuivre de Randan. Là, vous avez la représentation d'une trompe hydraulique. Donc effectivement, on connaît l'existence de ces trompes hydrauliques par les archives, mais on n'en a plus d'exemples, on va dire, visibles encore aujourd'hui. On sait qu'après la fermeture des fonderies, donc au XIXe siècle, on a continué à les utiliser pour les forges, parce que là, vous avez à l'écran deux plans de petites forges, donc en haut, c'est Hauteluce, et en dessous, c'est Saint-Jean-de-Belleville. Et donc, on voit que les trompes hydrauliques étaient utilisées donc, pour ces forges, parce qu'elles sont représentées en fait, sur les plans, il y en a une là. Et là, quand vous avez des petits ronds comme ça sur les canaux, ce sont des trompes hydrauliques donc, qui servaient à apporter donc, de l'air, à attiser les feux de ces forges. Le dernier exemple, je pense, j'en connais pas d'autres, mais peut-être que vous en connaissez d'autres, de trompes hydrauliques en Savoie, c'est celle de la forge de Saint-Pierre-d'Albigny, qui n'est plus en place. En fait, la photo, elle n'est pas si ancienne. C'est mon collègue qui l'avait pris à l'époque. Mais depuis, elle a été démontée. Donc, je ne connais pas d'autres exemples de trompes hydrauliques qu'on peut voir sur le territoire de la Savoie. Alors, dernière étape de la métallurgie, où l'eau s'avère un élément indispensable, c'est donc pour ce qui est tout ce qui est martinet. Alors, le martinet, soit on l'utilise dans une forge pour, on va dire, préformer le métal, mais on l'utilise aussi beaucoup pour la métallurgie du fer, lorsqu'on veut débarrasser, en fait, le métal de son carbone. Quand il sort du haut fourneau, en fait, le fer n'est pas pur, c'est de la fonte. Donc, il faut débarrasser du carbone en trop, donc en le martelant assez vigoureusement. Donc, encore une fois, ça peut être fait manuellement, mais l'invention du martinet va quand même révolutionner les choses. Alors, des martinets, par contre, il y en a encore beaucoup d'exemples. Enfin, on peut en voir encore beaucoup en Savoie. Je vous ai mis à l'écran celui de la forge des Alus à Saint-Pierre. Et à droite, vous avez ceux de la taillonnerie Busillet, donc un marteau. Et il y en a un autre, ah voilà, que j'aime bien celui-là. C'est le martinet que vous avez devant le musée de Conflans à Albertville, donc qui provient des anciennes forges d'Arbine qui se trouvaient sur la commune de Labatie. Donc vous avez ce martinet devant le musée de Conflans et son jumeau qui a été intégré aux collections du MUCEM de Marseille. Est-ce qu'il me reste un peu de temps?
Ça va être
bon, je passe rapidement juste sur cette diapo. Je te laisse la parole après.
Pas de problème.
Oui, je voulais quand même juste vous montrer cette diapo. Donc c'est on y voit la mapsarde de la commune d'Argentine. C'est une mapsarde qui est particulièrement bien conservée. Donc on voit vraiment tous les détails, les couleurs, enfin tout y est, puis elle n'est pas du tout abîmée. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit clairement en fait l'importance de l'eau pour un établissement métallurgique. Là, on est au niveau du on est le long du ruisseau de Bamont là qui descend de la Lozière. sur l'établissement métallurgique de la famille Castagnieri, dont vous avez des portraits à droite. Et donc, le long de, la dérivation en fait, du ruisseau, donc c'est une dérivation, je l'ai mesurée, elle fait un peu moins d'un kilomètre. On a 13 édifices qui utilisent la force de l'eau. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée en fait, de l'importance de l'eau pour une fabrique, en fait, pour une fonderie. D'où la nécessité aussi, ça on le voit beaucoup dans les textes anciens, d'entretenir en fait tous les ouvrages qui permettent de la dériver ou de la canaliser. C'est vraiment très important. Je sais que les Castagnieri, dans leurs actes d'état de fonderie ou à chaque fois qu'ils louent la fonderie à d'autres personnes, ils font état de tous les artifices et ils s'assurent en fait quand on leur rend en fait à la fin de la location que tout est en bon état, notamment tout ce qui est vannes et canaux. C'est quelque chose de très important parce que ça peut vraiment interrompre en fait l'activité. Alors pour conclure, alors aujourd'hui donc il reste peu de traces de toute cette histoire minière et métallurgique et de son lien avec l'eau dans les mines. Dans les mines qui étaient concernées par ce problème, l'eau a repris ses droits. Hein, dès que la mine a fermé, en fait, tous les efforts des mineurs pour s'en débarrasser donc, ont été balayés et donc l'eau a repris ses droits. Alors, à l'extérieur, quand même, le savoir-faire des hommes donc, pour canaliser cette eau et pour la maîtriser se voit encore, enfin, en tout cas, je trouve, puisqu'on peut observer qu'un grand nombre d'anciennes fonderies savoyardes sont devenues soit des usines importantes, soit des centrales hydroélectriques. Alors en haut, vous avez l'exemple du site de Lapra, donc des fonderies de Lapra, qui sont devenues donc, des usines d'aluminium par la suite, et donc qui sont aujourd'hui occupées par la centrale de Bissorte. À droite, vous avez un autre exemple, c'est celui d'Épierre, donc, qui était une fonderie importante au XVIIIe siècle, et donc qui est toujours occupée actuellement par une usine. Donc à l'intérieur de laquelle d'ailleurs se trouve une centrale hydroélectrique. Et puis en bas, je vous ai mis l'intérieur de la centrale d'Argentine, pardon, qui se trouve à l'emplacement donc, des anciennes fonderies Castagnieri. Voilà, et ça me permet de faire la transition avec la présentation de Christian.
Exactement ça. C'est comme ça ?
C'est si on passe ça.
Non,
tendance,
ça.
C'est bon.
Pas du tout là. Mais alors, c'est vrai que du coup, si je me lève.
Attends.
Je peux me mettre comme ça ? Je fais moins bien l'hôtesse de l'air, je pense. Que Clara.
Stewards. On avait mis mode lecture ?
Ouais, je crois. Et après, ça t'embête. Du coup, je crois que pour recadrer à chaque fois, il va falloir faire une petite manip. Je suis désolé. Ouais, ça va être un peu moins joli.
Assistante.
Voilà. Avec moi. Bonjour à toutes et à tous. Alors, donc moi, je vais prendre le relais de Clara. Je vais prendre son point d'arrivée comme point de départ. Et je vais suivre le fil de l'eau, qui est notre fil conducteur aujourd'hui, pour voir comment cette eau, qui donc était, comme vous l'a bien montré Clara, tour à tour l'auxiliaire et la hantise des exploitations minières et métallurgiques, a pris le pas sur ces exploitations lorsqu'elle est devenue source d'électricité. Donc je ne vais pas vous refaire un énième historique de la houille blanche, hein, je pense que ça a été fait à de multiples reprises, mais je vais m'intéresser sur cette phase de transition, d'articulation entre la mine et la chute, entre la fonderie et la centrale. Et ça me permettra d'éclairer au passage un peu ce que j'appellerais les coulisses de la houille blanche et puis les premières heures de l'implantation de l'hydroélectricité dans nos vallées. Et on va essayer de comprendre, en fin de compte, un peu pourquoi ce passé minier et métallurgique, dont Clara vous a bien donné la mesure, hein, qu'on a une vraie histoire à ce niveau-là, pourquoi tout ce chapitre de notre histoire est à ce point oublié alors qu'on met si volontiers l'accent sur l'épisode électrométallurgique, électrochimique, qui est bien plus connu. Donc, pour vous planter un rapide décor de l'électricité, telle qu'elle se présente à nos vallées à la fin du XIXe siècle, l'électricité fait vraiment parler d'elle et défraye la chronique à l'occasion de l'exposition internationale qui lui est consacrée en 1881 à Paris. Et elle va dès lors élire domicile, surtout dans la région de Grenoble, où en 1883, un ingénieur du nom de Marcel Depré va démontrer la possibilité de transporter l'électricité sur la distance en reliant Vizille à Grenoble le temps d'une manifestation assez médiatisée. Et puis, un peu plus tard, à l'exposition universelle de Paris de 1889, c'est un homme originaire des Pyrénées, mais installé dans le Dauphiné près de Grenoble, qui va faire parler de lui. Il s'appelle Aristide Bergès. Et il va populariser en France l'expression de houille blanche. Et par la suite, c'est toujours à Grenoble que se tiendra en septembre 1902, le premier congrès de la houille blanche. Donc ces quelques décennies du tournant des 19e et 20e siècles vont être marquées dans les vallées par une véritable course à la chute, puisque les chutes sont désormais devenues source d'électricité et donc objet de spéculation. Il faut bien comprendre que, pour bien se comprendre sur chute, juste pour qu'on soit sûr de s'entendre sur les termes, il ne faut pas forcément imaginer une cascade ou une cataracte d'eau. Hein. On va plutôt parler d'un segment de cours d'eau qui est déterminé par deux paramètres majeurs, un débit et une déclivité avec une hauteur de chute. Et donc ces deux paramètres vont déterminer une force qui va être transformée en mouvement par une turbine et qui va être transformée en électricité par une dynamo. Je vous la fais très courte, je ne suis pas technicien moi-même, donc pas m'en demander plus. Mais quoi qu'il en soit, pour équiper comme ça une chute, il fallait en acquérir les droits de riveraineté, c'est-à-dire qu'il fallait devenir propriétaire foncier des berges, des terrains qui bordent le segment de cours d'eau convoité. Et toutes ces démarches vont se traduire par une multitude de conflits, de litiges et de procès dans un cadre législatif qui est assez flou et qui n'est pas encore à l'heure de la nouvelle donne hydroélectrique et qui ne se clarifiera ou ne se normalisera qu'avec la promulgation d'une loi en octobre 1919. Donc, dans l'entretemps, dans la période qui nous intéresse aujourd'hui, à ce niveau-là, on est un petit peu entre le Far West et la jungle, en gros, quoi. C'est, voilà, à qui chopera la chute, quoi. Donc, pour explorer cette phase, je vais m'organiser en deux temps. D'abord, je vais essayer de vous montrer quelques exemples très concrets de cette articulation et de cette transition de la mine à la chute ou de la fonderie à la centrale dans notre vallée. Et dans un deuxième temps, je me focaliserai sur trois figures qui ont joué le rôle d'artisans de la première heure dans l'implantation de l'électroélectricité. Hydroélectricité dans notre vallée, des personnages que j'appelle les capteurs de chute. Alors, assistante, s'il vous plaît, merci. Donc, voilà, c'est pas mal, la petite. Voilà. Alors après, il faut. Bon, c'est pas génial, quand même.
Là, on voit bien.
Bon, oui, ça va bien. C'est pas la plus jolie photo. Donc, quel meilleur point de départ trouver que la mine la plus importante et la plus célèbre de la vallée, celle des Urtières, dont nous a parlé Clara. C'est ici que nous allons rencontrer notre premier personnage, Charles Grange, Charles Benoît Grange, né en 1840, qui est, comme son nom l'indique, le descendant et l'héritier de la famille Grange de Randan, dont nous a parlé Clara, dont vous savez probablement qu'elle a, tout au cours du XIXe siècle, a posé sa mainmise sur les exploitations métalliques des Urtières, exploitations de fer et de cuivre, essentiellement. Et Charles Grange, dans sa relative jeunesse, dans les années 1870, vous allez voir, il est intéressant ce personnage, on va le suivre décennie par décennie. Dans les années 1870, on le voit gérer les affaires minières de sa famille aux côtés de son frère aîné Humbert Grange. Et en 1875, ils vont surtout parvenir à réunir cette exploitation très ancienne et très morcelée des Urtières en une seule concession, la concession des fosses, qu'ils vont immédiatement amaudier, c'est-à-dire louer à la compagnie Schneider du Creusot, dans la Loire. Alors Schneider va... mais je crois qu'il y a moyen, ouais, quand même. Schneider va moderniser l'exploitation et va notamment installer des fours à griller le minerai sur la plaine de la Pouille, à l'amont d'Aigbel, donc à l'amont immédiat du verrou de Charbonnière. Et puis, après une dizaine d'années, Schneider va abandonner la mine, va cesser d'exploiter les Urtières vers 1886. Parallèlement, Charles Grange, dans ses années 1880, on va le voir s'intéresser de plus en plus près aux chutes comme à titre de source d'énergie mécanique d'abord, puisque dès 1880, il installe une assez importante scierie hydraulique chez lui à Randan. Et puis, au milieu des années 1880, il s'intéresse au gypse de la Haute-Maurienne, qu'il va transformer en plâtre grâce à des fours, moulins et fours à plâtre installés à Fourneau et probablement animés par le torrent du Charmey. Et par la suite, il va donc électrifier le processus, si on veut. Dans les années 1890, il va vraiment faire corps avec son époque, hein, et il va participer à cet engouement pour les chutes, cette fois-ci à titre de source d'électricité. Donc il va valoriser des sources qui font partie de son patrimoine familial, il va en acquérir certaines, il va en céder d'autres, et il va notamment s'agir de... Mais je peux le faire après, hein, je suis un peu gêné quand même. Voilà, il va notamment s'agir de celle des pierres. Donc ça, c'est ce que vous montrez Clara tout à l'heure, une vue plus générale de la chute des fabriques, la bien nommée chute des fabriques à Épierre, que Charles Grange va louer en 1897 à son gendre Auguste Rochette. Auguste Rochette forme avec son frère aîné Louis la société Rochette Frères, qui va donc pouvoir ainsi investir les anciennes fonderies historiques d'Épierre et aussi celles d'Argentine. Donc c'est vraiment les anciens établissements Castagnieri dont vous parlez, Clara, hein. Et sur cette photo, là, vous voyez à droite, la diagonale que vous voyez là, on ne la distingue pas bien, mais c'est la conduite forcée qu'ils ont installée pour équiper la chute. Voilà, merci. Je te montre bien, je vais te garder. Hein. À titre d'hydroélectricité, quoi. Voilà. Et cette photo est probablement un peu postérieure. Il faut savoir que cette usine, a connu plusieurs vies. Et le site actuellement est occupé par l'usine de Lanxess, à Épierre. Et alors, les Rochette frères vont aussi se voir céder un peu plus tard, en 1905, toujours par le beau-père Charles Grange, la chute de Saint-Félix à Montrichet. Et telle sera l'origine de l'importante société électrométallurgique de Montrichet. Vous voyez ici une vue générale donc, de l'usine du Beauchet. Le lieu-dit s'appelait le Beauchet. Et on a ensuite une... je vais le faire, oui, Clara. Bon, voilà, merci. Là, vous avez une vue plus rapprochée de l'installation de la conduite forcée, donc de l'usine de Montrichet. Alors, cette société électrométallurgique de Montrichet connaîtra une assez belle prospérité et elle sera absorbée en 1944 par la sphère Péchinet. Charles Grange meurt à la fin de l'année 1912 et quelques mois plus tard, au printemps 1913, c'est son neveu François Grange, né en 1866, qui va fonder la Société anonyme française des fonderies et aciéries électriques, qui s'installe donc à La Pouille. Comme vous le voyez ici, vous reconnaissez à l'arrière-plan, à gauche, les trois fours de Schneider, c'est les mêmes. Hein. Et cette société va s'adjoindre elle-même en 1923, une société sœur ou fille, si on veut, qui sera la société anonyme des mines métalliques de Maurienne, qui, elle, ne s'intéresse pas à l'acier, mais au cuivre. Donc, elle va gratter les déblais cuivreux des exploitations anciennes des Urtières dans ce qui sera le dernier épisode de l'extraction minière métallique en Maurienne. Et alors, c'est la société des fonderies et aciéries électriques qui va aménager la chute de la Christine, qui sera inaugurée au début des années 1930, et dont vous voyez ici une photo dans son état actuel. Elle a été restaurée il y a 8 ans de ça, en 2015. Mmh. Voilà, la chute de la Christine à Argentine. Hein. Et alors, cette société sera à son tour absorbée par les aciéries d'Ugine en 1950, qui vont installer à La Pouille leur fabrication d'abrasifs, qui fonctionnera jusqu'à 1995. Donc, au vu de ces quelques éléments, moi, je suggère de porter un regard un peu nouveau sur cette famille des Granges, qui est souvent vue sous le prisme des générations précédentes comme une dynastie un peu passéiste, un peu archaïque, agrippée à la fonte au charbon de bois en pleine époque du coke, assise sur un modèle de néo-féodalité industrielle un peu d'un autre temps. Puisque avec cette génération de Charles, et puis celle de son neveu François Grange et du gendre Auguste Rochette, on voit que cette famille, en réalité, fait corps avec son époque et fait entrer l'industrie mauriennaise dans le XXe siècle et l'ère de l'électricité. Donc sur ce modèle des Urtières et des Granges, on va voir que la Maurienne illustre beaucoup d'exemples de cette articulation vivante entre l'industrie minière et l'industrie hydroélectrique, tant au niveau des gens, de la transmission intrafamiliale, que des infrastructures. Au niveau des personnes, je vous invite à remonter tranquillement voilà, le cours de l'Arc jusqu'à Modane, où nous allons rencontrer Georges Fardel. Georges Fardel, qui, entre les années 1850 et 1870, a obtenu d'assez nombreux permis de recherche minière en anthracite, fer et plomb argentifère dans le bassin de Fourneau et de Modane, et dont le fils, Antoine Fardel, né en 1851, à qui il lègue l'hôtel qu'il avait fondé, l'hôtel international que vous voyez ici, hein, ce prestigieux hôtel appelé à être très prestigieux en face de la gare, hein, l'hôtel de Modane-Gare. C'est ce fils Antoine Fardel qui, à la suite d'un incendie survenu en 1882, va équiper cet établissement d'un éclairage électrique tout à fait novateur pour la vallée. Et dans la foulée, il va aménager la chute de Rioux ou Rionroux en rive gauche de l'Arc. Et ça va lui permettre, le 15 novembre 1885, d'inaugurer l'éclairage électrique de Modane et Fourneau, faisant de cette localité l'une des toutes premières de France à bénéficier de l'éclairage électrique. Donc vous voyez qu'en une génération, on passe d'un monsieur qui s'intéressait plutôt aux mines à un autre qui s'intéressait plutôt aux chutes. C'est assez symptomatique. Au niveau des infrastructures, ben, comme nous le disait Clara, oui, tu peux, les anciens sites miniers et métallurgiques, ça fait vraiment comme un truc de diapo, là, les vols des vieux carousel.
Oui.
C'est pas mal. Ouais. Voilà, les anciens sites miniers et métallurgiques de la vallée vont souvent resservir à la nouvelle hydroélectricité. Et ça va être également donc le cas, comme on l'a vu avec les fours de la Pouille, les fonderies d'Argentil, des pierres, etc. Ça va être aussi le cas à l'Apra, où c'est le bien nommé lieu dit des fabriques, au pied de la haute chute de Bissorte, qui, en 1893, accueille la Société électrométallurgique française de Paul Héroux. Paul Héroux qui lui-même va s'installer dans un premier temps dans ce qu'on appelait la maison des Monazes, c'est-à-dire la demeure des Démonazes, les derniers exploitants des fabriques anciennes de l'Apra et des mines du Grand Filon, qui, en face nord du massif des Sarrasins, qui les alimentait en fer. Et alors on peut même se demander on l'a vu déjà un peu aux Urtières, si l'hydroélectricité n'aurait pas donné une nouvelle impulsion à certaines exploitations minières dans la vallée. Et il y aurait beaucoup d'exemples à citer pour étayer ce propos, mais la question se pose particulièrement pour les gisements d'anthracite de Saint-Michel, notamment. Hein, vous savez, le bassin Houillé-Maurienais, puisque l'anthracite est notre houille locale. Donc la question là, se pose particulièrement parce que, bien sûr, la houille blanche se présente comme le substitut providentiel à la houille noire. Donc elle devrait théoriquement en sonner le glas. Or, on va constater que ces exploitations d'anthracite vont perdurer entre les mains des deux compagnies qui se les partagent. La Société Compagnie des Mines et Usines de Saint-Michel et Sordières, dont vous voyez ici une jolie facture, et la Compagnie des Mines de Maurienne. Ouais, super, merci beaucoup, on se comprend trop bien. La Compagnie des Mines de Maurienne. Alors, qui n'a rien à voir avec la Société des Mines Métalliques de Maurienne, pour ceux qui se souviennent de la première partie, c'est pas la même, hein, c'est deux sociétés complètement différentes. Ici, on n'exploite pas du métal, mais du charbon, du combustible. Donc, vous voyez ici un relevé de recherche d'anthracite sur le Til, au-dessus de Saint-Michel de Maurienne, en rive droite, dont la date, si vous regardez, ça remonte aux années 40-50, puisque, bah, comme vous le disait Clara, les exploitations minières ont perduré assez longtemps en Savoie, en fait. Hein, et donc, ces deux compagnies n'ont été liquidées que dans les années 1950-60. Autrement dit, elles auront coexisté pendant plusieurs décennies avec l'hydroélectricité. La houille noire aura cohabité pendant plusieurs décennies avec la houille blanche. Il faut savoir que l'anthracite entre dans certaines fabrications de l'électrométallurgie et de l'électrochimie, notamment dans celle du carbure de calcium et dans celle des ferroalliages, les alliages à base de fer qui sont, avec l'aluminium, les fers de lance, c'est le cas de dire, de ces industries dans nos vallées. Et à ce titre, les sociétés hydroélectriques vont même parfois demander et obtenir des concessions d'anthracite. Ça va être le cas, on va remonter le cours de l'Arc, jusqu'à Fourneau, oui, allons-y, Ramon, voilà, jusqu'à Fourneau, où on va voir en 1929 la compagnie des mines et usines de Saint-Michel et Sordières louer sa concession d'anthracite de Côte-Velin à la papeterie Matussière et Forest, Donc là, vous voyez à droite, sur la droite de l'image, la papeterie. Hein, je pense que vous la reconnaissez, le grand bâtiment. Vraiment sur la droite, hein, parce qu'il y a au milieu. Hein. Et la mine, il faut l'imaginer à gauche, à peu près à l'aplomb du photographe, puisqu'elle se trouve au bord du Charmey, vraiment à quelques dizaines de mètres de l'église. L'église a changé depuis. Hein, ça, c'est une photo qui est antérieure à la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Donc, vous voyez un vrai dialogue en fait entre houille noire et houille blanche. C'est intéressant de savoir ça, que c'est par exemple la papeterie matussière a exploité l'anthracite local. Et ce dialogue entre houille noire et houille blanche, il prend parfois aussi les atours d'un conflit, d'une rivalité d'usage et d'un conflit ouvert, comme c'est le cas de l'usine du Temple que Louis Renault de Boulogne-Billancourt décide d'installer vers 1916. Il décide d'installer une grande aciérie électrique à Saint-Michel, de Maurienne. Vous la voyez ici, c'est une importante aciérie électrique. Et là, il s'agissait d'aménager la chute de la Neuvache, qui descend de Valmeignier. Or, le chantier d'installation de la conduite forcée empiète sur le périmètre de l'importante concession d'anthracite de la Sossas Châtelard. Et c'est pourquoi la compagnie des mines de Maurienne, qui était titulaire de cette concession, va attaquer en justice en décembre 1918, et elle sera déboutée en 1921. Donc voilà quelques exemples du dialogue entre mines et chutes, que vous voyez tour à tour cordial et tour à tour plus conflictuel. Dans un second temps, je vais me demander comment, très concrètement, toutes ces affaires hydroélectriques ont pris pied sur notre territoire. Alors, comme je vous le disais en introduction, pour équiper industriellement une chute, il fallait en détenir les droits de riveraineté. Et c'est pourquoi, à la base de toutes ces affaires, on va rencontrer une série d'hommes qui connaissent le terrain et qui vont procéder un peu à la manière des prospecteurs miniers d'antan, c'est-à-dire qu'ils vont explorer, arpenter le terrain, ils vont repérer les chutes intéressantes et ils vont en acheter les droits aux riverains. Et ces droits, ils vont les revendre, moyennant de très juteux bénéfices, bien évidemment, aux apporteurs, aux fondateurs et aux bailleurs de fonds des affaires hydroélectriques. Ces hommes, je les appelle les capteurs de chute. Alors, on en a un très beau, là. Enfin, lui, du coup, c'est pas encore vraiment un capteur de chute. Parce que là, bon, pour pas trop déborder dans le temps, on veut pas trop vous tenir non plus, mais je suis contraint de faire une mention un peu rapide de ce monsieur, mais parce qu'il est très important, et on va croiser son nom à plusieurs reprises. C'est Gilbert Planche. Il a de très belles bacchantes, hein, sont bien jolies. Et alors Gilbert Planche, lui, c'est plutôt un entrepreneur de travaux publics. Il est né en 1866, il mourra en 1924. Et il est plutôt entrepreneur de travaux publics, c'est-à-dire qu'il va construire des chemins de fer, des conduites forcées, des infrastructures industrielles. Et vous allez voir que son rayon d'action est très large et très ambitieux, puisque, enfin, à tous les niveaux, tant au niveau des domaines abordés que de la géographie. La société Planche Frères, qu'il forme avec son jeune frère Félix Planche, se fait connaître en Maurienne en devenant... Alors là, je ne sais pas si ça va pas rentrer en hauteur. Elle était trop belle, ma photo, je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave. Hein. Là, voilà. L'essentiel est là. Voilà. Cette société se fait connaître en devenant adjudicataire en 1895 d'un chantier très ambitieux qui consiste à percer une galerie dans la montagne pour dévier et canaliser le torrent de Saint-Julien qui menaçait régulièrement Saint-Julien de Maurienne, Saint-Julien-Mondeny, de ses laves torrentielles. Et donc cette galerie, qui sera inaugurée en août 1896, est l'œuvre de Planche Frères. Planche Frères qui semble s'installer soit son siège ou au moins une succursale à Saint-Michel de Maurienne. Et par la suite, Gilbert Planche va obtenir avec son frère et son père la concession des tramways de l'Ardèche en 1903. En 1904, ils vont commencer la construction de la centrale et usine de l'Argentière-l'ABC, très importante usine d'aluminium dans le Briançonnais. Là, vous voyez ce qui est peut-être le segment le plus spectaculaire de la conduite forcée qu'ils ont conçue. Et en 1905, Gilbert Planche va fonder la compagnie minière du Congo français, qui va exploiter les mines de cuivre de Mindouli, dans ce qu'on appelait alors le Dahomey, et pour laquelle Gilbert Planche va construire le chemin de fer qui va emporter le minerai jusqu'au port pour être embarqué vers la métropole. Je reviendrai en conclusion sur cette double dimension minière et coloniale qui est tout à fait fondamentale. Quoi qu'il en soit, ce prestige industriel va naturellement mener notre Gilbert Planche à une belle carrière politique, puisqu'il est dès 1907 représentant du canton de l'Argentière et dès 1914 député de Briançon. Et donc, dans toutes les affaires où on veut le voir tremper, là, on peut un peu l'envisager comme un intermédiaire avec les hautes sphères politiques. Et en parlant de hautes sphères politiques, ce monsieur Gilbert Planche n'est autre que l'arrière-grand-père de notre ex-première dame de France, madame Carla Gilberta Bruni. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il faut passer à Alexis Perrin. Merci. Donc, voilà notre premier vrai capteur de chute, Alexis Perrin. Alexis Perrin, qui est un peu notre seul vrai local de l'étape aujourd'hui, puisqu'il est issu d'une famille de longue date implantée à Valmeigné, où il serait né en 1843 ou 1852. Donc, je vous prie de m'excuser, ces données biographiques sont encore assez obscures. On travaille sérieusement sur son matricule avec Clara, mais il est bien embusqué. Et en tout cas, à l'image de son grand frère Félix Perrin, qui était gendarme, qui avait plusieurs dignité locale, on va dire, charge locale, Alexis Perrin va vraiment devenir ce qu'on appelle un notable local. C'est-à-dire qu'à partir d'une extraction qui semble plutôt modeste, il va se hisser à travers les échelons de la politique locale. Il est élu maire de Valmeigné, semble-t-il, en 1888. En 1891, il est conseiller d'arrondissement. En 1899, il est conseiller général. En 1901, on le trouve dans une délégation chargée d'étudier la question des forces hydrauliques. C'est pas anodin hein, comme mandat. En mars 1901, il est nommé officier d'académie comme maire de Valmeigné et délégué cantonal. Et en 1904, il échoue aux élections départementales et il démissionne de son poste de maire et de conseiller municipal de Valmeigné. Voilà à peu près pour sa carrière politique. Quant à sa carrière industrielle, elle semble commencer comme locataire d'une usine à plâtre à l'amont immédiat de Saint-Michel, au lieu-dit le Plan d'Arc, pour laquelle il demande en 1887 l'autorisation d'établir un barrage sur l'Arc, et qu'il va défendre contre les prétentions d'un industriel rival, Jean Peduzzi, qui lui aussi veut barrer l'Arc en 1891. Et dans ce litige, il fait cause commune avec un autre notable local, voilà, Charles-François Gros, géomètre, greffier de la justice de paix à Saint-Michel, collaborateur régulier du PLM, le Paris-Lyon-Méditerranée, hein, la compagnie du chemin de fer, et avec lequel Alexis Perrin vient d'acheter cette année-là, 1891, des terrains à la Sossaz dans le but de construire une usine. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui se passent en 91. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu une année charnière dans notre histoire. Puisque la même année, on va les retrouver tous les deux, là, Perrin et Gros, associés sur l'équipement d'une autre chute, la chute de la Valoirette. Il y avait son nom, hein, je ne vous ai pas menti. La chute de la Valoirette, un peu plus bas, pour le coup, en aval de Saint-Michel, hein, c'est à Saint-Martin-la-Porte, je pense que tout le monde voit ce dont on parle. D'où ce rare document illustrant la carrière d'Alexis Perrin, c'est un jeton de nécessité, c'est-à-dire c'est une sorte de monnaie qu'il a fait frapper. Et sur l'avers, sur le recto à gauche, en bas, vous voyez écrit son nom, A. Perrin. Et au-dessus, si vous regardez bien, c'est marqué la Valoirette. Mais bon, c'est bien évidemment de la Valoirette hein, qu'il s'agit. Et sur le revers à droite, c'est bien écrit Calypso. Le lieu-dit Calypso, qui s'appelait déjà comme ça, hein, qui va donc donner son nom à l'importante usine de Calypso, qui va être établie grâce à eux, et sur laquelle nous reviendrons au sujet de notre personnage suivant, Charles Chevran. Alors, par la suite, Alexis Perrin s'expatrie et il va s'intéresser à l'éclairage électrique. Il va proposer cette prestation à la ville d'Évian, notamment en 1896, ce qui va aboutir et ça va lui permettre d'obtenir l'autorisation de construire la petite centrale de Chevenoz. Cette petite centrale qui existe encore, hein, vous la voyez là, qui donc était destinée à l'éclairage d'Évian. Chantier sur lequel il semble à nouveau avoir été associé à Charles Chevran, notre personnage suivant, et à Gilbert Planche, le bacchante, là. Et c'est, alors ces droits et cette concession, il va les revendre à quelqu'un qui sera l'apporteur d'une assez grosse société électrique. Donc il faut bien comprendre cette espèce de chaîne de transaction entre la petite chute qui est là, qui ne demande rien, le bonhomme qui arrive, qui la repère, qui achète les droits, qui négocie avec les collectivités locales, qui obtient la concession, qui va bien, tout ça, et qui revend tout ce « package », entre guillemets, à quelqu'un qui lui-même en fait apport à une grosse société. Vous voyez, un peu avec une, comment dire, une multiplication exponentielle des enjeux financiers, bien sûr, au fur et à mesure. Hein. Exactement sur le même schéma, Alexis Perrin va ensuite s'engouffrer en Tarentaise, puisque ces mêmes années-là, 1894-96, on le voit acheter des droits de riveraineté sur l'eau rousse, un torrent qui est appelé à être turbiné par la très importante usine électrochimique de Notre-Dame de Briançon. Donc en parenthèse, pas très très loin de Moutier, hein, pour ceux qui connaissent. Et pareil, ces droits, il va les revendre à une société où figure Gilbert Planche. On a une vue, ça c'est donc l'usine au début, puis on a une vue, voilà, la conduite forcée existe encore, hein, elle est régulièrement révisée par EDF. Et dans la foulée, Alexis Perrin va remonter encore le cours de la Tarentaise et il va aller acheter, il va acheter des droits de riveraineté sur l'Isère même, entre M et Bourg-Saint-Maurice, et ces droits, il va les revendre à nouveau au fondateur de la Volta lyonnaise. Et c'est l'origine de l'autre usine importante d'électrochimie tarine, de la Volta à Pomblières. Il semble que les constructeurs, les fondateurs de cette société aient mandaté et fait venir un photographe lyonnais qui s'appelait Jules Sylvestre, qui se spécialisait notamment dans la photographie industrielle, pour venir documenter la construction de cette usine, d'où cette belle et assez curieuse photographie, c'est dommage, mais de toute façon c'est pas grave, dont personnellement je me plais à imaginer le personnage central là, comme étant Alexis Perrin lui-même. En tout cas, c'est probablement pas lui, hein, mais c'est comme ça que tout à fait comme ça que je me figure Alexis Perrin, un peu endimanché avec un beau costume, et il vous regarde, il vous toise du regard, il vous dit « Regardez, là, la chute, c'est moi qui l'ai... »
Un air conquérant,
voilà, ouais, hein. C'est tout à fait comme ça qu'on l'imagine.
C'est vrai.
Quoi qu'il en soit, notre Alexis Perrin, par la suite, il va continuer de lancer des affaires, ou de tenter d'en lancer dans les Alpes, en Basse-Maurienne, sur le Chéran, dans les Bauges, en cœur de Bauges. Et il va surtout tourner ses vues vers les Pyrénées. Il va vraiment, vraiment s'expatrier, et puisqu'on va le trouver impliqué, dans l'électrification des Pyrénées. Et notamment en mars 1911, on le trouve à nouveau en société avec Gilbert Planche pour signer le traité les autorisant à construire la centrale d'Arreau dans la vallée d'Or, la très jolie vallée d'Or, sur la Neste d'Or, dans les Hautes-Pyrénées, pour ceux qui connaissent, un très joli coin. Et alors, je crois que j'ai une photo après des bons hommes sur le chantier. Il y avait beaucoup, beaucoup d'Espagnols, hein, sur ces... L'Espagnol étant l'Italien local, là-bas. On l'employait à corps et à merci, je ne sais plus comment on dit. Hein. Lorsque cette centrale sera remise entre les mains de la Poudrerie nationale de Lannemezan, en 1917, pour participer à l'effort de guerre, Alexis Perrin est déjà mort. Donc j'ignore la date précise de sa mort, désolé, mais en tout cas il n'a pas perdu son temps, vous voyez, parce qu'il a manifestement pris part dans des affaires très juteuses, très lucratives, qui lui ont permis, soit dit en passant, dès 1898, de faire de très généreux dons à diverses communes de Morielle et de Tarentaise. Notre personnage suivant s'appelle Charles Chevran, et il a également de très belles bacchantes. Hein, lui, il est bien aussi au niveau d'acanthe. Hein.
Ouais.
C'est vraiment impressionnant. Charles Chevran, il est né en 1850, dans la région parisienne, à Corbeil-Essonne. Et dans son adolescence, il a suivi son père Auguste Chevran, qui était directeur de l'importante papeterie d'Essonne, et qui, à l'époque de la faillite de cette usine, est venu s'installer en Dauphiné pour prendre en location la papeterie du Moutier à Domaine, donc près de Grenoble, en société avec son gendre, amable Alfred Frédet. Le voici. Oui. Un modèle différent de Bacchante. Puisque en 1865, ce monsieur Frédet avait épousé la jeune sœur, non, je ne sais plus si c'est sa sœur aînée ou je ne sais plus, la sœur de Charles Chevran, qui s'appelait Berthe. Quant au jeune frère de Charles Chevran, Paul, il épousera en 1878 Lucille, la sœur d'Émile Vielhomme, qui n'est autre que le futur directeur de la Société électrométallurgique française de Paul Héroux. Bref, Charles Chevran est le beau-frère de deux hommes très importants dans l'histoire de l'hydroélectricité alpine. Charles Chevran, il va reprendre d'abord en gérance et puis en pleine propriété la papeterie du Moutier, qui lui incombe en 1892. Et elle est, dès cette époque, manifestement déjà en très mauvaise posture, puisque dès septembre 1892, elle est mise en liquidation judiciaire. Et elle sera vendue aux enchères entre mai et octobre 1893. Donc vous me direz, bon, bah, c'est déjà la fin de l'histoire pour Charles Chevrant. En fait, pas du tout. C'est presque que le début, puisque, entre-temps, Charles Chevrant s'est affirmé comme un digne représentant de cette génération de fils d'industriels, souvent papetiers, qui vont embrasser la nouvelle donne hydroélectrique. Puisque dès 1888, Charles Chevrant a acheté deux chutes, celle des Adrets à Froges et celle des Eaux à Domaine. Alors la première, la chute de Froges, il va la revendre dès l'automne 1888 à la société électrométallurgique française de son beau-frère Émile Vielhomme, qui installe donc sa fabrication d'aluminium sur les procédés Paul Héroux, d'où son surnom de société de Froges, hein, avant de s'installer à la Prat, on disait la société de Froges. Et la deuxième chute, celle de, tu peux, oui, celle des Eaux à Domaine, sur le Doménon, il va se la garder et il va la faire aménager par un jeune et brillant ingénieur électricien nommé André Illéret. Il avait choisi sur ses bacchantes, je pense aussi. Il y a aussi des belles bacchantes.
C'est un leitmotiv.
Ouais, ouais. Il fallait avoir les moustaches. Et cet André Illéret va construire là la centrale de La Force. La Force, avec deux majuscules, comme dans La Guerre des Étoiles. Puisque donc c'est la première mise en œuvre à l'échelle industrielle du principe du transport de l'électricité, dont je vous parlais au sujet de la démonstration qu'en avait faite Marcel Depré en 1883. Puisque cette centrale va alimenter l'usine, donc la papeterie du Moutier, qui se trouve à 5 km. Donc vous voyez qu'on commence vraiment à dissocier, donc à distancier la chute et la turbine qui créent l'électricité de l'usine qui exploite l'électricité. Et donc cette installation tout à fait pionnière va faire parler d'elle et sera mise en valeur lors de l'exposition universelle de Paris en 1889. Cette année-là, c'est justement l'année où Charles Chevrant prend pied en Maurienne, puisqu'entre 1889 et 1892, on le voit acquérir des droits de riveraineté sur la chute de la Valoirette. Nous y revoici. Voilà. Là, vous la reconnaissez, hein, l'arrivée des gorges de la Valoirette à Saint-Martin-la-Porte. Chute qu'il vend à deux frères, Myrtille et Ernest Bernard. Ce sont deux hommes d'affaires qui sont originaires de Besançon, mais qui ont fait fortune à Paris et qui sont porteurs d'un procédé d'électrolyse de l'aluminium rival de celui de Paul Héroux. Et alors, ils vont faire construire la conduite forcée, que vous voyez au centre, là, par Alexis Perrin et Charles Gros, nos personnages d'avant. Et l'usine elle-même sera aménagée intérieurement par André Illéret à nouveau. Et donc, ce sera la fameuse usine de Calypso, qui ne fera pas florès, puisqu'apparemment le procédé marche assez moyennement, et donc elle tombera dès 1897 dans l'escarcelle de Péchinet. Ce sera la première incursion de Péchinet en Maurienne. Je reviens en 1891, parce que je vous disais, c'est vraiment une année charnière. En 1891, Charles Chevrant obtient aussi le droit de dériver l'arc, cette fois-ci en amont de Saint-Michel. Mais alors il semble que les affres de sa liquidation judiciaire l'aient détourné, enfin l'aient écarté des transactions, qui néanmoins aboutiront en 1905 à la mise en œuvre, en service plutôt, de l'usine de la Sossaz. Autre très grosse usine d'aluminium de la société électrométallurgique française, dont vous voyez que, si vous regardez bien à gauche, à l'arrière-plan, elle reprend pour sa conduite forcée le principe inauguré par Paul Héroux à la Prat, avec, il y a une photo plus précise après, si tu veux bien. On la voit mieux, avec cette sorte de voûte autoportante qui franchit l'arc en passerelle. Et alors, toujours 1891, en novembre de cette année-là, Charles Chevrant se met en société avec un cimentier du bassin grenoblois qui s'appelle Jean-François Torrent, qui a également des bacchantes. Je me rends compte, là, maintenant, spécial moustache.
Tu aurais dû t'en faire.
C'est vrai, j'aurais dû faire un effort. Lui, ça marche plutôt bien dans la vie pour lui, puisqu'il exploite des grosses carrières de pierre à chaud, de calcaire, dans le coin de Voreppe, surtout. J'ai une photo de ses hangars, il y a des beaux et gros hangars. On voit rien, mais c'est marqué ciment Torrent. Pour ceux qui ont une très bonne vue, ciment Torrent. Toutes ces exploitations seront absorbées à terme par le gros cimentier Vica, sur lequel je reviendrai. Et alors, en 1892, la société Chevrant-Torrent, Torrent, c'est un joli nom pour quelqu'un qui capte les chutes, hein, soit dit en passant, ils vont acheter ensemble une chute en Haute-Maurienne, non, en Haute-Savoie, sur l'Arve, tu peux y aller, la chute de Chède à Passy, Et ils vont la céder, la revendre, hein, c'est pas gratuit, hein, à la Société des forces motrices et usines de larves qui se constitue en juin 1895 pour construire cette énorme usine de Shed où sera fabriqué le célèbre explosif de Paul Corbin, la Shedite. Et alors, dernier épisode pour notre société Chevron-Torrent, ils vont acheter en 1900 la chute de Gavet à Gavet sur la Romanche, dans l'Oisans, qu'ils vont revendre l'année suivante, 1901, à la nouvelle société grenobloise de Force et Lumière. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Ouais. Donc vous voyez le nom ici inscrit sur le pignon d'une autre usine. C'est l'usine de Monténard. Puisque cette société de Force et Lumière va être vraiment la cheville ouvrière de l'électrification des Alpes françaises. Elle va construire un nombre incalculable de centrales, de barrages, etc. Elle va obtenir un nombre incalculable de concessions électriques. C'est une très importante société, Force et Lumière. Et alors, pour conclure sur Charles Chevron, mais alors c'est con, ça va pas... On va voir ce que ça peut donner, mais c'est plutôt vertical. Bon, oui, tu cadres comme tu veux, c'est ton choix. Je voulais juste évoquer avec vous son proche parent et parrain, Charles l'Apostolais, né en 1824 et qui est venu mourir chez lui dans la maison Chevron à Domaine en 1890 et qui était un peintre de grand talent. Juste histoire de regarder autre chose que des usines pendant 30 secondes. Personnellement, ça me change d'air. Voilà. Bon, on n'a pas le temps, malheureusement. Il faut passer à Fréjus Mertz. Voilà, Fréjus Mertz, dont... Ah, les bacchantes sont pas mal aussi. Ouais. Ouais. Dont le joli nom ne nous le dit pas forcément, mais il est drômois, puisqu'il est né en 1874 à Romans-sur-Isère. Et il est le fils d'Erhard Mertz, un Alsacien ayant opté pour la nationalité française en 1872, et qu'on retrouvera en 1889 mort dans l'Allier, la rivière Allier, à Moulins, où il était sous-chef de gare. Et on pense qu'Erhard Mertz, désolé de te l'apprendre comme ça, on pense que Erhard Mertz s'est suicidé suite à l'effondrement boursier, au crash d'une affaire d'accaparement des cuivres. Il aurait mal joué en bourse. Ce qui peut, si on voulait un tout petit peu romancer les choses, nous suggérer un lien, ma foi, assez tragique avec l'industrie et l'économie minière et métallurgique dans la vie du jeune Fréjus Mertz, qui perd donc son père à 15 ans. Alors Fréjus, en 1900, il va épouser Marguerite, la fille de Amable Alfred Frédet. Donc, si vous suivez, vous voyez qu'il entre dans la sphère familiale des Frédet et des Chevrons, qu'on a vu précédemment. Vous voyez très bien que c'est un réseau qui se tisse sous nos yeux. Ces hommes se connaissent et ils travaillent en réseau, à la manière d'un réseau électrique d'ailleurs. Et alors, lui-même, il va être militaire, Fréjus Mertz. Et ingénieur de très haut niveau, puisqu'il est polytechnicien en 1894. Et après, il va intégrer le très prestigieux Institut électrotechnique de Grenoble, qui vraiment est l'école qui a formé toute une génération d'électrotechniciens au début du XXe siècle, dont il sort diplômé ingénieur électricien en 1906. Et en 1910, il entre dans le conseil d'administration de l'énergie industrielle, de Pierre-Marie Durand. Voici un des rares portraits de Pierre-Marie Durand, un homme aussi discret que riche et puissant, puisque sa société, l'énergie industrielle, était déjà à l'époque en passe de réaliser autour d'elle la coalition, la fusion des trois quarts des boîtes électriques françaises et l'interconnexion des réseaux qui allait former le véritable socle de l'EDF lors de la nationalisation de 1946. Donc vous voyez que Fréjus Mertz rentre là dans une très 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 grosse boîte. Alors son propre secteur d'élection à Fréjus Mertz au début, il reste centré sur sa Drôme natale, et c'est pour desservir ce secteur qu'il va s'associer au fondateur, en 1909, il s'associe au fondateur de la Société des forces motrices du Vercors pour fonder une nouvelle société qui s'appellera la Régionale électrique, et à laquelle il va faire apport, Fréjus Mertz, d'une chute qu'il a achetée, toujours sur le même schéma, à Lécancière. Voici la centrale qui sera construite, la centrale de Lécancière. Et cette centrale est appelée à turbiner l'excédent du canal de la Bourne. Le canal de la Bourne, j'en ai une photo du canal de la Bourne. Le canal de la Bourne, vous savez probablement que c'est un canal qui a été aménagé à la fin du XIXe siècle pour irriguer, notamment pour irriguer la plaine du Valentinois avec l'eau du Vercors. Et donc l'excédent qui n'est pas utilisé pour l'agriculture sera turbiné par la centrale de Lécancière. Donc ces deux sociétés, Force Motrice du Vercors et Régionale Électrique, où figure notre Fréjus Mertz, seront à leur tour absorbée par l'énergie industrielle de Pierre-Marie Durand au début des années 30. Mais entre-temps, c'est à l'approche de la Première Guerre mondiale que Fréjus Mertz prend pied chez nous en Maurienne, et notamment en Haute-Maurienne. Le reste de la vallée en aval étant déjà intégralement accaparé et aménagé, et lui est allé explorer cette vallée sauvage qui était la Haute-Maurienne. Et donc, après avoir acquis de Lancelebourg, la commune de Lancelebourg, tous ses droits de riveraineté sur l'Arc, il va demander au printemps 1914 l'autorisation d'établir une centrale électrique sur le Grand Pix, qui est un affluent de rive droite du Doron de Termignon. Et alors, toutes ces chutes qu'il aura réunies entre Lancelebourg, Termignon et Avrieux également, il va les revendre en 1917 à la Compagnie de Saint-Gobain. Mmh. Voilà, qui est alors, bon, je vous appelle le nom, c'est pas grave, on sait de quoi c'est, voilà, mieux vaut voir l'usine, qui est alors, via sa filiale, la Société Hydroélectrique de la Maurienne, en train d'aménager et d'équiper son importante usine électrochimique de Modane, située entre Modane et Villarodin-Bourget. Usine qui fermera en 1972. Donc voilà pour notre Fréjus Mertz, dont vous voyez que le Fréjus Mertz il mourra à Gier en 1925, juste pour info. Et alors vous voyez que son nom, plutôt obscur aujourd'hui, je suis pas sûr que aucun des noms que j'ai cités, que ce soit Charles Chevrant, Fréjus Mertz, c'était quoi l'autre ?
Alexis Perrin
parle à beaucoup de monde aujourd'hui. Mais si on regarde, en fait, on voit que ces gens-là ont été littéralement, au sens propre comme au figuré, à l'amont de très importantes affaires hydroélectriques. Et quand on compile un peu leur œuvre, on voit qu'ils sont quasiment à l'origine de toutes les usines qui ont jalonné notre vallée, et des vallées adjacentes, et des vallées même assez lointaines, dans les Pyrénées et ailleurs. Alors, pour conclure sur cette histoire, je vais me permettre de vous livrer une réponse qui m'est personnelle à la question de savoir... Pourquoi ce passé minier, ce chapitre minier et métallurgique de l'histoire de notre vallée, dont Clara vous a bien donné mesure de l'importance, est à ce point oublié aujourd'hui, alors qu'on met si volontiers l'accent et la lumière sur l'épisode hydroélectrique. À mon sens, c'est parce que l'hydroélectricité a supplanté un mode de vie qu'elle rendait désormais impossible. Il faut savoir que cet accaparement des eaux et des terres ne s'est pas fait dans la paix et la concorde, mais au prix d'une infinité de conflits, de litiges et de négociations avec les autochtones, dont on prenait l'eau, dont on polluait l'environnement et dont on a fini par noyer les alpages et parfois même les villages dans d'autres vallées, mais aussi avec les voix qui, dès le début du XXe siècle, se sont élevées pour militer en faveur de la préservation des paysages. Parce qu'il faut savoir que ce qu'on appellerait aujourd'hui la conscience écologique, ce n'est pas un phénomène si nouveau qu'on voudrait le croire, et que la fascination de l'usine n'a jamais été aussi unanime que voudraient nous le laisser entendre les sources écrites. Les sources écrites étant essentiellement faites par les vainqueurs, c'est bien connu. Et à mon sens, c'est pourquoi il était d'autant plus nécessaire d'échafauder un discours héroïque, voire mythologique, autour de cette houille blanche, et de cette fée électricité venue littéralement apporter lumière et civilisation à nos vallées ingrates et déshéritées, en dévalorisant au passage la façon d'habiter la montagne qu'on réduisait à néant. Il y a toute une littérature qui brode allègrement sur cette épopée, cette geste de la houille blanche, mais rares sont les sources parmi elles qui reconnaissent la préexistence d'une industrie dans nos vallées. Et encore le font-elles généralement pour insister sur ces aspects primitifs, rudimentaires, archaïques, obsolètes. Voilà, à mon sens, une des raisons pour lesquelles nous avons à ce point oublié cette page d'histoire industrielle qui est pourtant la nôtre. Alors j'avais dit au sujet de Gilbert Planche que je reviendrai sur la dimension minière et coloniale qu'il incarne. Au début du XXe siècle, la véritable mine que recélaient nos vallées, ce n'était plus le filon, c'était la chute. Et si les affaires hydroélectriques se sont implantées chez nous et si elles y ont prospéré, c'est parce qu'elles y ont trouvé l'énergie électrique à très bon marché, à très bon compte. Alors que d'un autre côté, les minerais et autres matières premières, on les faisait désormais venir par le chemin de fer de très loin, et notamment des colonies. C'était tout simplement plus rentable que d'exploiter le sous-sol local. Or, pour cette logique et cette mentalité capitaliste qui triomphe alors, et dont les acteurs que nous avons vus ont été les rouages en se faisant intermédiaires entre ressources locales et capitaux venus exclusivement de l'extérieur, la Maurienne est une colonie comme une autre. Je vous cite un bref extrait d'une revue manifestement destinée aux capitalistes désireux d'investir dans l'électrochimie, vu son nom, c'est Le Phosphate, c'est comme ça que s'appelait la revue, Le Phosphate, je ne suis pas abonné, hein, du 4 novembre 1903. En Savoie, le mouvement minier a pris une importance considérable depuis quelques années, depuis surtout que l'on profite des forces hydrauliques naturelles, baptisées de ce nom suggestif de houille blanche. Nous avons dit ailleurs que cette région frontière de la France, si pittoresque, si curieuse à tous les points de vue, était à coloniser. Elle est à coloniser, en effet, sous tous les rapports. Fin de citation. C'est donc une entreprise de colonisation à laquelle nous assistons. Et je terminerai rapidement en évoquant deux grosses sociétés qui ont participé à cette entreprise de colonisation. Saint-Gobain, que nous avons croisé en Haute-Maurienne, mais également le cimentier Vicat, dont j'ai fait une brève mention, mais qui a construit beaucoup d'infrastructures hydroélectriques. Hein. Alors, au sujet notamment de Saint-Gobain, saviez-vous qu'il y a pile un siècle de ça, Saint-Gobain, s'estimant maîtresse de la Haute-Maurienne, envisageait, je cite leurs termes, d'aménager le lac des Évêtes, de créer un réservoir à Bonneval, d'établir un barrage à Bessan, d'organiser le lac de Savine, trois petits points. En un mot, de noyer toute la Haute-Maurienne sous l'eau et le béton. Or, ces deux entreprises, Saint-Gobain et Vicat, sont les deux mêmes qui font actuellement peser sur la Maurienne la menace de l'instauration d'une zone spéciale de carrière de gypse, en s'appuyant, comme toujours, sur le bon vieil argument de la participation à l'intérêt général. Donc j'espère que le propos que j'ai développé devant vous aujourd'hui vous encouragera, s'il en était besoin, à vous saisir de cette question, à en parler autour de vous et à faire savoir à qui de droit ce que vous en pensez. Je vous remercie de votre attention.
Merci en tout cas pour ces deux belles présentations.